Plume sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous remontons le temps. Fermez les yeux et imaginez le Paris de la fin du XVIIIe siècle. Le fracas des calèches sur les pavés, les ombres des ruelles sombres et les balbutiements d'une science qui cherche encore ses marques face au crime. J'ai le plaisir de recevoir une autrice qui maîtrise l'art de faire revivre l'histoire avec une précision chirurgicale. Elle nous raconte l'urgence, le mystère et les secrets d'une époque fascinante. Bonjour Anne Wilmans-Schurmann, merci d'être avec nous pour nous présenter votre roman La dernière chance d'Éléonore, publié chez Kalman Levy. Avec nous également John Mulitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle La petite merveille. Bonjour John.
Bonjour.
Alors Anne, vous êtes médecin gynécologue, métier que vous avez pratiqué de nombreuses années. Alors qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ?
Une envie, d'abord bonjour Mona, j'avais l'envie d'écrire depuis fort longtemps sans avoir le temps d'y consacrer le temps qu'il faut et donc dès ma retraite je m'y suis mise.
Et c'est avec plaisir, on sent que c'est avec
Ah oui, c'est avec un grand plaisir, oui. J'aime l'histoire depuis très longtemps finalement, ça m'est venu à l'âge adulte. Et puis, le fait de creuser une époque, de s'approprier des personnages, de les mettre en scène, de leur donner vie, de les voir en trois dimensions, ça, je trouve ça un plaisir sans mélange.
Alors, La dernière chance d'Éléonore est le 9e opus qui met en scène le vétérinaire Augustin Duroc. Alors qu'Augustin Duroc soit vétérinaire n'est pas un hasard ?
Non, pas du tout, non. Je voulais faire plaisir à mon père, qui était vétérinaire, fils de vétérinaire et petit-fils de vétérinaire. Et il aurait aimé que je sois vétérinaire. J'ai choisi une autre voie. Et donc, à peu près 5 ans avant de démarrer cette série, je lui avais annoncé que je lui donnerais un successeur de fiction, parce que j'avais déjà dans l'idée de mettre en scène un vétérinaire enquêteur.
Ça lui a plu ?
Oui, ça lui a plu. Malheureusement, il n'a pas vu le projet réalisé, puisqu'il est mort avant.
D'accord. Alors, la première enquête de votre héros, Guet-apens rue des Juifs, publiée aux éditions La Valette, débute en 1770. Et dans votre roman La dernière chance d'Éléonore, dont nous allons parler aujourd'hui, nous sommes déjà en 1794. Augustin a donc connu l'Ancien Régime et la Révolution française. Alors, pourquoi est-ce que cette période vous fascine ?
Alors, la période est fascinante déjà parce qu'il y a ce basculement entre l'Ancien Régime et puis la Révolution qui envoie tout promener finalement. Et j'ai commencé en 1770 parce que je voulais un vétérinaire à ses débuts. C'est pour ça que j'ai choisi cette date, ça aurait pu être avant, j'aurais mis en scène Stanislas, mais il n'y avait pas de vétérinaire. Comme je voulais un vétérinaire, il a fallu que j'attende la première école fondée d'ailleurs par les Français, la toute première école du monde, c'est celle de Lyon, 1760. La seconde étant celle d'Alfort, 1762. Donc j'ai attendu d'avoir un vétérinaire formé pour pouvoir commencer ma série.
Alors pour permettre aux auditeurs de se mettre dans l'ambiance de votre roman, vous voulez bien nous lire le début de votre récit, s'il vous plaît ?
Mais volontiers. Gouin, le 21 pluviose en 2, mardi 11 février 1794. Un claquement furieux secouait un volet à l'étage. Il tapait contre le mur et grinçait sur ses gonds. Éléonore ne trouvait plus le repos depuis près d'une heure. Un vent têtu sifflait par rafales dans le toit, gonflait sous la charpente, hurlait dans les cheminées et courait entre les tours du château. Et voilà que cette pensée infernale reprenait possession de sa tête, chassant toutes les autres. Elle craignait pour elle-même, mais surtout pour sa fille, Lou, 19 ans, trop souvent inconsciente du danger comme on l'est à cet âge. Le bruit se répéta plus violemment. Éléonore se dressa sur un coude et prêta l'oreille. N'avait-on pas frappé en bas ? Non, ce n'était que la tempête. C'était dans le journal des départements qu'elle avait découvert la loi des suspects du 17 septembre 1793. On y détaillait la longue liste des gens à surveiller. C'était ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se montraient nostalgiques du temps de la monarchie. Tout le monde, finalement, pouvait se sentir en danger. Comment se comporter de façon parfaite en tout lieu et en tout temps et n'être jamais prise en défaut de tiédeur vis-à-vis de la Révolution ? Fille et veuve de ci-devant nobles, Éléonore était déjà suspecte par son nom. Son mari, officier, Aymon de Cussange, était mort au combat en 1781 à la bataille de Yorktown, aux côtés de Lafayette. Quand elle se déplaçait dans les rues de Metz, elle avait l'impression d'être observée. jaugée. Pourtant, elle se défendait d'avoir peur, elle qui avait bravé tant de dangers dans le passé. Mais il fallait se rendre à l'évidence, depuis septembre, un certain nombre de personnes de son entourage avaient été dénoncées devant le comité de surveillance de Metz. Elle ne pouvait oublier le sort réservé à son ami le baron de Poutet, procureur général syndic du département de Moselle. Il avait été arrêté en 1792, donc avant même le vote de cette loi, par suite d'accusations calomnieuses de nostalgie de l'ancienne France. Qu'il eût conservé de délicieuses manières aristocratiques avait suffi pour qu'il fût suspecté de trahison. Il avait été jugé au tribunal révolutionnaire de Paris et guillotiné l'année passée.
Donc c'était une époque un petit peu particulière, dans la mesure où tout le monde soupçonnait tout le monde, hein, c'est ça?
Oui, il fallait se surveiller, on pouvait toujours être à la merci d'un voisin jaloux, d'une personne malveillante, quelqu'un qui voulait toucher une prime, enfin tout était bon pour dénoncer son voisin.
Mmh. Alors l'histoire commence donc en février 1794, et Éléonore de Cussange a une bonne raison de se faire du souci, racontez-nous.
Alors, donc à la fin de cette nuit, elle entend de nouveau frapper violemment à la porte du château, une domestique va ouvrir, pousse un cri, et là, elle descend et voit sur le pas de sa porte le cadavre d'une paysanne, d'une jeune paysanne, avec laquelle elle a eu un différend 2 ans auparavant. C'est dans le tome précédent. Elle l'a giflé pour une raison grave. Et elle se dit, si ce cadavre est déposé sur mon perron, c'est que je vais être accusée de ce meurtre. Et donc, elle décide de s'enfuir avec sa fille Lou.
Mmh. Alors, Augustin Duroc est un ami d'Éléonore, un bon ami d'Éléonore même.
Oui, c'est un ami de longue date. Éléonore est plus ou moins amoureuse de lui. Et elle a toujours des espoirs maintenant qu'elle est veuve. Et elle a des espoirs de ce côté. Mais lui est marié et fidèle.
Mmh. Alors, Augustin donc est convaincu de son innocence et il s'engage à l'aider à se disculper de ce...
Ah oui, oui, il est convaincu qu'elle est innocente, il connaît l'histoire avec la paysanne, et il va tout mettre en œuvre pour découvrir le coupable, et même partir à la Convention, parce que dans l'intervalle est arrivé ce qu'on appelait un représentant du peuple, c'est-à-dire un député à la Convention, qui était envoyé dans un département. Il y en avait dans tous les départements des représentants du peuple qui étaient chargés d'appliquer la loi, de faire respecter la terreur, de surveiller l'administration, de surveiller les tribunaux. Et lui met un point d'honneur à coincer tous les aristocrates possibles. Et donc, Éléonore, c'est vraiment la coupable idéale. Il va tout faire pour qu'elle soit condamnée. Parce que finalement, au bout d'une certaine errance, elle est capturée, emprisonnée et jugée. Pendant ce temps-là, Augustin est à Paris. Alors, c'est un fait réel que ce représentant du peuple a existé. Il s'est rendu odieux à la population et la population a envoyé une délégation à la Convention dont on connaît les noms des gens qui sont partis, j'ai ajouté Augustin Duroc, pour demander que l'on récuse cet homme qui était vraiment insupportable à la population messine pour l'avoir taxé d'une façon excessive. Et donc, Augustin s'en va et il ne sait pas pendant ce temps-là ce qu'il advient d'Éléonore.
Mmh. Alors, ce fameux monsieur, c'est Duquesnoy, bien
Duquesnoy,
sûr.
Duquesnoy, oui.
C'est un personnage horrible, bien sûr.
Oui, il y a eu bien pire que lui, hein, oui. Encore comparé à ce qui s'est passé à Nantes ou à Lyon, où les gens étaient tués à la mitraille, ou jetés dans la Loire, ou noyés dans des barges au large du port à Nantes. Bon, c'est horrible ce qui s'est passé par ailleurs. Donc, Duquesnoy, finalement, il était assez modéré.
Oui, oui.
Toute proportion gardée.
Mais en même temps, c'est aussi un homme qui a peur, parce que lui-même est surveillé par le gouvernement.
Ah ben oui, il était. On sait que les commissaires du peuple et les envoyés les représentants en mission étaient eux-mêmes surveillés, environnés d'espions qui faisaient leur rapport à la Convention. Et s'ils n'appliquaient pas bien la loi, il pouvait leur arriver aussi des misères. Donc lui, il a très peur de passer lui aussi sous la guillotine, puisque là, on est en plein dans la grande terreur. La guillotine trône sur la place de la Comédie à Metz. Et donc, lui aussi, il a très peur d'y passer.
Oui, bien sûr. Donc, il préfère faire tuer les gens plutôt que lui.
C'est ça, voilà. Montrer qu'il est un bon patriote, qu'il applique bien la loi de la terreur.
Oui. Alors, la justice est plutôt expéditive à cette époque. Oui. On guillotine à tout va, en fait, hein, pour rien.
Oui, pour pas grand-chose.
Il n'y a même pas de preuves.
Alors, les procès que j'ai relatés entre celui d'Éléonore ont vraiment eu lieu. Pas forcément le jour que je les décris, mais ce sont des gens qui ont vraiment été condamnés pour les raisons que je décris. Et effectivement, c'était pour pas grand-chose. Parfois, c'était quand même des gens qui avaient trahi, qui avaient trahi l'armée, par exemple, en passant du côté ennemi. Bon, ça, c'était quand même punissable.
Oui.
Peut-être pas de la guillotine, mais bon... Il y avait aussi tous ceux qui faisaient du faux monnayage, ils passaient à la guillotine, enfin... Et puis tous ceux qui étaient tout simplement dénoncés faussement, hein, on n'allait pas voir plus loin.
Oui, oui, bien sûr. Bon, mais en même temps, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a plein de gens qui vont assister à ça.
Ah oui, mais ça, depuis l'Ancien Régime, les gens ont toujours adoré voir les tortures, les exécutions, et même, certains trouvaient que c'était trop expéditif, finalement. La lame tombe, la tête roule dans le panier, ah bon, c'est déjà fini, alors qu'avant, on faisait quand même des belles tortures, des écartèlements, des démembrements, des choses comme ça, qui étaient... ça prenait du temps, et c'était un spectacle.
Oui, oui.
Et on y envoyait les enfants, oui.
Oui, c'est... Voilà, bon. Alors, je trouve que c'est une époque terrible. La devise liberté, égalité, fraternité est quand même bien malmenée.
Oui, on sent que la révolution finit par tourner mal, finalement. Oui, parce que là, le principe de l'égalité devant la loi, qui était le principe même de la révolution, oui, on peut se demander où il est passé, parce que les nobles sont quand même beaucoup plus maltraités que les autres. Il y a une inversion, finalement, de ce qui se passait avant, qui était tout aussi détestable. Mais là, c'est vrai que on ne respecte plus ce principe.
Mmh. Alors, vous voulez bien nous parler des armées révolutionnaires, à ne pas confondre avec les troupes qui défendent nos frontières ?
Oui, j'ai mis du temps à le comprendre, ça, parce que ce qu'on appelait les armées révolutionnaires, en fait, c'était des gens qui étaient armés par les commissaires du peuple, qui avaient besoin de ravitailler la ville, par exemple. Donc, ils partaient avec des charrettes dans les campagnes pour voler les récoltes, s'en mettre plein les poches au passage, prendre tout ce qu'il y avait à prendre, du bétail, des charrettes, ramener tout ça en ville pour nourrir la population d'une ville. Mmh. Donc, ça c'était répandu dans toute la France, appelait les armées révolutionnaires.
Oui, oui. Et en plus, dans chaque village, il y avait aussi des comités de surveillance.
Oui, dans chaque village, il y avait un comité de surveillance. Oui.
Alors,
le comité de surveillance, il était choisi en général parmi les membres de la commune. Et. On venait dénoncer les gens chez eux.
Oui.
Et eux décidaient s'il fallait envoyer au tribunal ou pas.
Mmh. Bon, les prisons, en plus, avant, c'était quand même pas...
Ah, les prisons, elles étaient depuis longtemps dans un état déplorable. Et puis, comme elles étaient surpeuplées, vu qu'à la fin de la Grande Terreur, on emprisonnait quasiment tout le monde, il n'y avait plus de place dans les prisons classiques. Et on mettait des gens dans les anciens couvents. Parce que je vous rappelle qu'en 80... dans les années 90, pratiquement tous les couvents ont été évacués. Les religieux priaient de revenir dans le civil. Et tous ces bâtiments ont été réquisitionnés. On transformait en général les églises en écuries, en réserves de foin, des choses comme ça bien désacralisées pour montrer qu'il y avait plus qu'il fallait plus penser à une présence divine quelconque.
Mmh. Et alors, tout le monde épiait tout le monde, pas besoin de caméra de surveillance à cette époque.
Oui, voilà, ça n'existait pas, mais ça marchait quand même.
Oui. Et ça n'empêchait pas non plus les malversations. Je veux dire, tout le monde était surveillé, mais il y avait quand même, il y a eu la vente des biens nationaux.
Oui, la vente des biens nationaux qui occasionnait beaucoup de spéculation, de tricherie, comme je le mets en scène d'ailleurs dans le volume suivant qui sortira au mois de mai. Les biens nationaux, ça a commencé d'abord par les biens religieux qui ont été vendus pour renflouer les caisses du trésor. Mmh. Donc c'est là qu'on a pris tous les couvents, les églises, pris dans les églises tous les objets du culte qui en général étaient en métal précieux. On les envoyait à la convention pour remplir le trésor. Et donc ces bâtiments ont été vendus lors de ventes aux enchères et il y avait des gens qui faisaient des pressions sur d'autres pour être sûrs d'obtenir le marché à des prix modiques. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires de gens qui se sont enrichis avec des biens nationaux qu'ils revendaient ensuite, qui se sont bâtis des fortunes comme ça. Mmh.
Alors, vos deux personnages, Éléonore et sa fille Lou, sont des femmes, je veux dire, comment dire, elles savent ce qu'elles veulent, elles sont résilientes en fait.
Elles sont très modernes.
Oui.
Oui, bon, j'ai peut-être inventé ce type de caractère, quoique non, il y avait quand même des femmes, je pense à Madame du Châtelet par exemple, bon, je ne dis pas qu'elle s'est battue à l'épée, mais enfin, c'était une femme qui tenait sa place vis-à-vis des hommes, qui avait une grande culture, qui a traduit les œuvres de Newton en français, qui parlait plusieurs langues, elle parlait l'allemand, l'anglais, le grec ancien, le latin, elle chantait merveilleusement bien, donc c'est une femme quand même qui avait une éducation. À cette époque-là, les femmes qui avaient une éducation comme les hommes étaient quand même assez rares, parce que cette éducation complète était réservée aux garçons et les femmes, les filles, elles apprenaient à tenir une maison essentiellement, sauf quelques exceptions comme ça, Madame Roland aussi, Madame Roland qui
tenait un salon littéraire,
qui a fait de la politique essentiellement, oui, et qui c'était d'ailleurs l'homme du couple avec son mari, c'est elle qui lui insufflait des idées, mais elle faisait partie d'une fratrie dont tous les garçons sont morts, et le père lui a donc donné une éducation de garçon.
Mmh. Alors, Éléonore est emprisonnée, jugée et condamnée à la guillotine. Alors, est-ce qu'Augustin va réussir à la sauver ?
Ah ben ça !
Alors, vous le saurez en lisant votre roman, bien sûr. Alors, une date importante pour vous, bientôt, c'est le 7 mai, la sortie d'une nouvelle enquête d'Augustin Duroc, Les disparus de Germinal.
C'est ça. Donc, ça se passe un an plus tard. Et ça débute au moment d'une émeute de la faim. Alors, la terreur est terminée avec la disparition de Robespierre, qui est guillotiné avec tous ses amis. Et la période est plus calme, mais pas tout à fait quand même, parce que c'est une période de règlement de compte. C'est-à-dire que les anciens opprimés se vengent de ceux qu'ils appellent les terroristes, hein, les adeptes de la terreur. Et donc, il y a énormément de règlements de compte, en particulier dans le sud, à Lyon, dans l'Ouest, dans toutes ces régions qui ont été vraiment ensanglantées, il y a des groupes dont certains se sont appelés les témoins de Jéhu, les compagnons de Jéhu, qui ont vraiment été extrêmement violents. Donc il y avait le revers de la médaille, et donc j'ai imaginé lors de cette émeute du 26 Germinal, qui a vraiment eu lieu, il y en a eu lieu à Paris et un petit peu dans d'autres endroits aussi, les femmes stimulées par les hommes de leur section, sont partis à l'assaut de la mairie de Metz, ont menacé le maire, qui s'appelait Barbé Marbois, qui aura un destin assez extraordinaire, lui. Et à l'époque, il n'est que maire de Metz. Et ces femmes arrivent à leur fin, elles arrivent à faire baisser le prix du pain. Et j'ai imaginé que trois personnes disparaissaient ce même jour, toutes les trois, ce 26 Germinal. Alors, c'est un menuisier, un marchand de vin et le directeur du théâtre. Le directeur du théâtre a existé. Je ne sais pas s'il est content du sort que je lui fais. Et puis, les deux autres sont des personnages de fiction.
Alors, comment vous attendez cette parution? Avec impatience, avec joie?
Ah oui, bien sûr, je suis toujours très contente de voir les choses qui arrivent une fois que c'est écrit, que ça sort. Bon, y a toujours une petite anxiété de voir comment c'est reçu, hein, bien
oui,
sûr.
Bien sûr, oui. Mais bon, normalement, on sont bien reçus vos livres. Alors, nous revenons après un extrait de la comédie musicale La Révolution française, au petit matin, interprété par Julie Den.
Au petit matin, les fleurs de mon jardin s'ouvraient à la vie, et je me vois encore couverte de rosée après la nuit passée à rire, à danser, à aimer. Au petit matin, ils viendront me chercher et me conduiront par les rues de la ville dans un chariot de bois jusqu'à l'horrible endroit. Mon Dieu, épargnez-moi la peur. Adieu. petit matin. Mes rêves, je m'en souviens, emportaient mon cœur au temps de mon enfance, parmi des gens heureux, à compagnons de jeu, un soir à pleurer mon départ. Déjà plus très loin, la dernière étoile pâlit à la fenêtre. Ils vont venir bientôt et je suis déjà prête à suivre le chemin de mon dernier matin.
Les plumes sur RCN, Mona.
Avant d'aborder avec Anne Villemain-Sicherman deux autres de ses romans, 1803, La nuit de la sage-femme et 1813, Le fiancé de Russie, publié chez 10-18, John Bullitt va nous faire la lecture de sa nouvelle La petite merveille.
Ah, c'est pas possible. Tu vas ressortir à la fin, c'est pas possible. Si t'es rentré, tu dois bien ressortir, maudit vélo à la noix. Ah. 20 minutes que je m'escrime à te tirer, te pousser, te soulever de mon coffre arrière et pas moyen de l'extraire de ma bagnole. Espèce de maudit biclou à la noix. J'ai pourtant baissé le siège arrière droit, pensant faciliter ta sortie, mais que dalle. Et puis j'ai avancé le siège avant droit, à fond, et toujours que dalle. Baisser l'appui-tête et toujours rien, tirer toutes mes forces. Non, non, inutile, c'est bloqué, bloqué de partout. Je deviens fou, en plus, sous ce soleil de canicule. Le ridicule de la situation me submerge, mais quelle idée m'est passée par la tête d'aller rechercher à vélo ma voiture au garage Midas d'Albertville, pensant remettre mon biclou dans le coffre pour le retour. Bon... C'est vrai, c'est le vélo de ma sœur. Il est effectivement plus haut, mais seulement de quelques centimètres par rapport au mien. Lui, il serait rentré, c'est sûr, mais j'ai crevé hier. Et avec le garagiste ce matin, on a pourtant réussi à nous deux à le rentrer en forçant dans ma scénique, mais le ressortir près de chez moi, au calme, eh ben non, c'est pas du tout facile, pas du tout facile. Après tout ce temps, ces efforts inutiles, moi, je n'en peux plus. Et soudain, je hurle à la mort, tel un loup blessé. Un attroupement se fait autour de moi sur la place Léon Blum d'Albertville, et certains en appellent déjà à faire venir la police, alors j'essaye de justifier mon énervement. Non, excusez-moi. Pas de panique, c'est ce satané vélo là, tout va bien, je me calme. Soudain, une idée lumineuse m'apparaît. Ah mais bien sûr, il me faut enlever la roue du vélo depuis l'intérieur de la voiture. Tout simplement depuis l'intérieur. Avec ce subterfuge, il devrait sortir tout seul, concluai-je, épaté par mon éclair de lucidité. Alors, frénétiquement, je dévisse les deux boulons de la roue avant et je me mets à tirer. Non, incroyable. Même comme ça, j'arrive pas. C'est coincé aussi, là. Oh, encore pire que tout à l'heure. Oh, coincé à mort. Je crée à nouveau, je pousse, je tire, je tords la roue, je marque bout et... Ah, ça y est, miracle. Dans un dernier effort, j'arrache la roue infernale du logement et je la ramène à terre. Ah, gagné. Personne n'ose s'approcher de moi, tant je suis rouge de colère et vociférant. Et d'ailleurs, les rares passants du secteur pressent le pas, inquiets de ma violence, mais moi j'en ai cure. Tout est enfin dehors, la roue, le biclou, rassemblés à mes pieds. Ça y est, je claque le haillon arrière de la scénique et souffle d'exaspération. C'est terminé, il ne reste plus qu'à remettre la roue dans le logement, comme je l'ai déjà fait des dizaines de fois, et rentrer ainsi à l'appartement. Mais... Eh non. Impossible à nouveau. Cette fois-ci, c'est la roue avec son frein à disque qui n'entre plus dans le logement malgré mes tentatives. Quelque chose bloque son introduction. Ah, déconfit, exténué. Au bord de la crise de nerfs, je jette l'ensemble par terre, hurle à nouveau vers le ciel, comme un animal blessé, et je m'écroule sur le coffre, en sanglotant. Quelques instants s'écoulent, lorsqu'une main délicate et parfumée vient me tapoter l'épaule.
« Hey man, toi as un problème ?»
D'une voix abattue, je réponds sans me retourner. « Ah, c'est cette maudite roue avec ce vélo de malheur qui sont la cause de tout. Je vais les brûler, les mettre à la casse, à la déchetterie, tiens, les jeter tous les deux. C'est fichu, j'arriverai jamais à remettre ces trous. »
« Oh, mais c'est pas problème for me. I can aider vous. Moi, être le personnel mécano, monsieur Pogacar. Do you know Pogacar ?»
Me retournant, j'aperçois alors devant moi une fort jolie fille, genre mannequin d'un mètre 80, longiligne, montée sur deux jambes fuseau, le sourire aux lèvres avec des longues mains fines, manucurées. Et pas vraiment le profil du mécano, mais plutôt celui d'un défilé de chez Yves Saint-Laurent ou de chez Gucci. Décontenancé et encore passablement énervé, je lui réponds « Non, non, je connais pas ce gars-là, Pogacar, non, ça me dit rien. Il fait des concerts, il écrit des livres, il fait de la politique. »«
Non, il fait tout de la France. »
Ah ouais, le tour de la France, oui, avec une tente et des grosses sacoches, ah ben c'est super, c'est super. La France est jolie, très jolie. Je me retiens avec peine de lui répondre, tout comme vous, mademoiselle. Mais dites-moi alors si vous voyagez ensemble et que vous pouvez l'aider à entretenir son vélo, eh bien, dites-moi pourquoi j'arrive pas à remettre cette diable de mauvaise roue de... excusez-moi encore. Jetant un bref coup d'œil sur ma roue, le verdict tombe immédiatement.
Oh, oh man, comment vous dire plaquette tout serré. Pas possible mettre disque dedans.
Ah oui. Oui, effectivement, dis-je en regardant plus attentivement la roue. Vous avez raison, oui, c'est ce petit truc en métal qui bloque. Ce sont des plaquettes, hein, comme sur les voitures, ajoutai-je en tentant de faire le gars qui s'y connaît un minimum.
Yes, pour guérir vélo, faut presser avec piston, écarter et faire petit levier sur plaquette.
Ah oui, 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 une presse à piston, c'est ça, hein, pour les vélos. Je vais trouver ça un vendredi soir à Albertville, ma jolie.
Ah. Pas besoin de chercher. Moi j'ai. Vois-tu garer ici devant vous juste. Monsieur Pogacar bientôt dormir dans chambre hôtel. Avant de se reposer, masser, prendre petit médicament fortifiant. Et moi devoir soigner vélo pendant récupération patron de moi. Mais vous pas bouger. Une minute seulement passer ici et roue devenir merveilleuse.
Tu parles d'une merveille de roue. Non, c'est pas la roue qui était merveilleuse. C'était cette fille qui l'était merveilleuse. Sortant de sa sacoche, la dite presse à piston, enfilant des gants couleur rouge fuchsia, impeccablement propres, elle m'arrange l'affaire en deux temps trois mouvements. Démontant la roue, passant un tournevis plat entre les deux plaquettes, les repoussant, introduisant le disque de la roue avec précision, vif comme l'éclair, revissant les deux boulons sur l'axe, redressant mon vélo sur sa béquille et me le présentant prêt à l'emploi. Trois minutes s'étaient pas écoulées et ma petite merveille rangeait déjà ses affaires dans sa mallette, de secours elle aussi, impeccablement propre.
Ça, être fait, toi content ?
Bouche bée, stupéfait, j'eus quand même... La présence d'articulé, très, 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 très content, oui. Et comment puis-je vous remercier ? Elle me dévisagea des pieds à la tête et m'énonça.
Offrir à moi à boire quelque chose. Et encore 30 minutes avant le travail. Et moi beaucoup soif avec soleil français.
La suite appartient au domaine du privé, mais quand ma petite merveille est retournée dans son pays des ours slovènes, aux côtés de son monsieur Pogacar, dont j'appris à ce moment l'existence ainsi que ses 4 victoires sur le Tour de France cycliste, je dois dire qu'il m'est resté dans la bouche à tout jamais un goût de rayon de soleil et de merveilleux. Ah, c'est merveilleux, le vélo.
Merci, John. Alors, Anne, vous avez fait des infidélités à votre héros, Augustin Duroc, avec votre série Victoire Montfort, même si les Duroc père et fils apparaissent de temps en temps dans cette série. Alors, pourquoi avoir créé une nouvelle héroïne ?
C'était à la demande de mon éditeur 10-18 qui m'avait dit que ça serait bien de changer de personnage, d'époque. J'ai obéi. Alors, comme il me fallait un personnage qui ait un petit peu l'envergure d'Augustin Duroc, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir entrer dans toutes les couches de la société, parce que j'aime bien donner un aspect à la fois social, politique, économique d'une période. Je pense que c'est comme ça que le lecteur peut davantage l'appréhender. Je pensais que le vétérinaire était tout à fait adapté parce qu'il va soigner à la fois chez les paysans, chez les aristocrates, chez les bourgeois, chez tous les gens qui possèdent un cheval. Et une sage-femme, finalement, elle va elle aussi dans tous les milieux possibles. Bon, puis c'est un métier qui était proche du mien, donc c'était plus facile. Et voilà pourquoi j'ai mis en scène une sage-femme. Et puis en plus, j'ai choisi pour le premier 1803. Pourquoi 1803 ? Pour deux raisons. Ça aurait pu être 1802, c'est vrai. 1802, c'est l'institution des écoles de sages-femmes par Bonaparte, qui, lors de sa réforme du système de santé, qui était complètement à plat, puisque pendant la Révolution, on a tout aboli. Il n'y avait plus de diplôme, plus d'école, plus de faculté, plus rien. Tout le monde pouvait exercer le métier qu'il voulait au nom de l'égalité. Donc, tout le monde pouvait s'intituler soigneur, médecin, avocat. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et il n'empêche que ça a fait des catastrophes. Donc Bonaparte, pendant ses 4 années de consulat, a réformé complètement la France. C'est ce qu'il a fait de mieux, d'ailleurs, de toute sa période de règne. Et puis, notamment, le système de santé. Donc, il y a eu des écoles de sages-femmes dans tous les départements. Et Victoire Montfort, ma sage-femme, elle a été maîtresse sage-femme dans cette école parce que, avide d'apprendre, elle s'était formée auparavant à l'Hôtel Dieu. Donc, Elle est nommée maîtresse sage-femme. Donc, c'est un personnage de fiction.
Oui, bien sûr. Alors, vous voulez nous parler un peu de cette victoire quand même. C'est un personnage un peu, je veux dire, elle est puissante comme femme.
Alors, comme je voulais que ce soit elle l'enquêtrice, je me disais quand même qu'elle n'était pas aussi libre de mouvement qu'un vétérinaire. Parce que bon, une femme à cette époque-là, même si elle va accoucher un peu n'importe où, elle va dans les villages, elle va... Bon, il fallait quand même un mari, et j'ai choisi un mari commissaire de police. Donc c'est lui, en fait, c'est lui qui mène l'enquête. Et puis souvent, il est débordé parce qu'il a plein d'enquêtes qui lui tombent dessus, des problèmes divers et variés. Finalement, Victoire lui prête main forte. D'autant plus qu'elle a, elle, ses sources d'informations par ses patientes. Et donc, c'est par ce biais-là que finalement, elle arrive à lui apporter des éléments. Et tout compte fait, en fait, c'est elle qui fait l'enquête.
Oui, bien sûr. Au grand dam de son mari, d'ailleurs. Bon, oui. Il aime beaucoup sa femme, il apprécie son aide, mais bon, il trouve des fois qu'elle prend un peu beaucoup de place dans ses enquêtes.
C'est ça, hein, oui.
C'est ça. Alors, dans 1803, la nuit des sages-femmes, tout commence avec Maximilien Lacour, un mort enterré vivant. Racontez-nous.
Alors, j'ai choisi ce cas-là parce que c'était une préoccupation de l'époque, la peur d'être enterré vivant.
Oui.
Alors, il se passe que, avant que Bonaparte ne fasse paraître un décret, on enterrait les gens le plus tôt possible. Et comme le diagnostic de la mort n'était pas très précis à l'époque, on enterrait des gens vivants. des gens qui étaient dans le coma ou qui avaient l'air morts et qui ne l'étaient pas. Et donc, c'est ce qui arrive à ce pauvre homme qui, tout d'un coup, au cimetière, se met à taper dans dans sa tombe. Et lorsqu'on ouvre le cercueil, eh bien, il rend le dernier soupir parce qu'on ne peut pas vivre très longtemps enterré sous terre, on manque d'oxygène. Et donc, il rend son dernier soupir en laissant entendre au commissaire qui ouvre la boîte qu'il a été assassiné. Donc c'était pas une mort naturelle.
Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient enterrés un petit peu précipitamment.
Ben oui, précipitamment parce qu'on avait peur lors de maladies infectieuses, on avait peur de la contagion. Oui. Donc c'est ça qui faisait qu'on se précipitait. Puis comme on savait pas bien de quoi les gens étaient morts, au cas où on enterrait, c'était mieux.
Oui. Il y avait l'histoire de clochettes qu'on mettait. Il y avait des gens qui se faisaient enterrer avec une clochette qui était sur la tombe, avec un fil de fer qui était enroulé autour de leurs doigts pour pouvoir actionner la cloche pour dire je suis vivante. Oui. C'est ça.
Oui, il y a eu quelques cas comme ça.
Oui, c'est ça. Alors donc, nous sommes sur le consulat et Madame de Staël, qui est très critique envers Napoléon Bonaparte, se voit obligée de quitter Paris. Elle part vers l'Allemagne et s'arrête à Metz.
Alors c'est pour ça que j'ai choisi 1803, c'était parce que j'étais tellement contente de pouvoir mettre en scène Germaine de Staël que j'ai choisi 1803. Donc si vous vous promenez à Metz, place de Chambre, vous verrez sur l'hôtel qu'elle a occupé, qui s'appelle Hôtel de la Cathédrale et qui à l'époque s'appelait Hôtel de Pont-à-Mousson. C'est toujours un hôtel, bizarrement, parce que souvent hein, les lieux changent d'affectation. Oui. C'est toujours un hôtel, on peut d'ailleurs voir sa chambre. Eh bien elle a passé 12 jours avec Benjamin Constant qui avait été son amant, qui n'était plus que son ami. Et puis Germaine, qui était tout le temps amoureuse de quelqu'un, vient à Metz pour rencontrer Charles de Villers, avec lequel elle correspond. Alors Charles de Villers était français, émigré en Allemagne pendant la Révolution, philosophe, et c'est lui qui prend l'initiative d'écrire à cette grande dame, parce que Germaine de Staël, c'est vraiment une star à l'époque de la littérature, elle est connue dans l'Europe entière, et donc il lui écrit très timidement, et puis ils correspondent, et elle se prend au jeu, puis elle se dit, peut-être que, bon déjà, la correspondance est tout à fait charmante et elle manifeste le désir de le rencontrer. Et lui, alors, sur ces entrefaites, la voilà qui est chassée de Paris par Bonaparte et elle se dit, je vais aller en Allemagne pour le retrouver, c'est lui qui va me faire visiter l'Allemagne. Et donc elle lui demande s'ils peuvent se rencontrer et lui lui dit, ben, moi je vais à Paris justement parce que j'ai une communication à faire à l'Institut. Nous pourrions nous rencontrer là. Finalement, comme leurs chemins vont se croiser, eh bien, ils décident de s'arrêter à Metz. Et lui a une sœur qui habite à Metz, donc c'est l'occasion de la voir. Et ils réservent tous deux des suites dans le même hôtel. Lui est accompagné d'une femme qui n'est pas la sienne, enfin, il n'est pas marié, d'une femme qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est une femme qui est docteur en philosophie, polyglotte, extrêmement intelligente, mais elle n'a pas l'aplomb, elle n'a pas la sûreté de Germaine de Staël, qui, elle, écrase tout. Hein. Quand elle est quelque part, il faut qu'on la regarde, elle aime être écoutée, il y a qu'elle qui compte, et donc elle va écraser cette malheureuse Dorothea von Rode.
Oui, effectivement. Alors, cet hôtel de Pont-à-Mousson, c'est l'hôtel de Madame qui est dirigé par Madame Plantin, oui. Dont le gendre était le mort-vivant.
Voilà.
Hein, c'est ça.
C'est ça. Mmh. Et alors, pour que Victoire puisse entrer dans cet hôtel, il fallait qu'il y ait une raison. Mmh. Alors, j'ai imaginé que la femme du malheureux qui était mort dans sa tombe était enceinte et que Victoire suivait la grossesse.
Oui.
Donc, elle va lui arracher comme ça des informations.
Oui. Ah oui, parce qu'en plus, elle n'a pas les yeux ni les oreilles dans sa poche,
non.
Victoire. Hein, c'est ça. Alors, le mari, donc, suit la... Il arrive pas à appréhender, effectivement, les causes et effets. Parce qu'en même temps, Madame de Staël est là. Elle doit être surveillée.
Elle est surveillée. Elle était extrêmement surveillée. Envoyé paître par Bonaparte, mais surveillé. Donc le préfet, c'est vrai ça aussi, hein, il donne une réception en son honneur, parce que c'est le branle-bas de combat quand elle arrive à Metz, donc il donne une réception en son honneur, et il a la mission de faire son rapport, de dire qui elle rencontre, ce qu'elle fait, etc. Et on a appris bien plus tard que son homme de confiance, Eugène, son factotum de Madame de Staël, était en fait son premier espion. C'était lui qui, moyennant finance, allait donner des renseignements à la police. mmh. alors qu'elle croyait qu'elle avait là une perle à côté de lui. Elle pouvait lui demander n'importe quoi. Il avait ses petites combines à côté.
Alors c'est encore une époque troublée avec des complots pour rétablir.
Oui, il y en avait toujours, il y avait des complots royalistes. Ben, on voit bien, Bonaparte a échappé de près à un attentat en 1799. Ben non, là il est premier consul et il y a la machine infernale de la rue Nicaise, une voiture qui explose sur son passage alors qu'il se rendait le 31 décembre à l'Opéra, dans deux voitures différentes avec Joséphine. Et la machine qui explose, c'est juste devant la voiture de Napoléon. Mmh. Et là, on va accuser les royalistes, et en fait, c'était les Jacobins.
Voilà, c'est ça.
Donc, il y a les deux qui sont tout le temps en train de fomenter sans cesse pour reprendre le dessus.
Oui, donc la religion a été rétablie par...
Rétablie par Bonaparte.
Par Bonaparte.
Oui.
Et il y a un curé, là, qui veut profiter de la résurrection, entre parenthèses, mort-vivant.
Oui. Pour s'approprier l'histoire.
Oui.
Faire semblant que c'est une opération divine et ça amène des fidèles parce qu'il raconte bien l'histoire. Il se dit c'est quand même extraordinaire cet homme qui se réveille dans sa tombe, presque une résurrection. Alors il en fait des tonnes et puis les fidèles affluent et la tenancière de l'hôtel de Pont-à-Mousson, elle l'admire, elle est amoureuse de lui aussi. Voilà.
Mais elle est sous sa coupe, là, carrément.
Oui, elle est carrément sous sa coupe, oui.
Alors donc, Victoire, avec son mari, réussiront à trouver le coupable. Alors, votre second roman de la série des enquêtes de Victoire Montfort, 1812, Le fiancé de Russie, débute avec l'effervescence occasionnée par la venue à Metz de l'empereur Napoléon et son épouse Marie-Louise. Racontez-nous.
Alors, j'ai choisi 1812 parce que Napoléon est venu à Metz, il est venu 6 fois à Metz, hein, mais là, c'était sa plus longue visite. La nuit était prévue, installée, etc. On avait fait venir des meubles pour loger l'empereur. La suite de l'empereur, c'était énorme. Il y avait une quinzaine de voitures qui le suivaient, donc il fallait loger tout ce monde-là. C'était la cour, en fait, qui le suivait. Donc il fallait loger tous ces gens, trouver des hôtels chez des gens qui voulaient bien les recevoir. L'empereur logeait à la préfecture. Donc ça... Ça me plaisait de mettre ça en scène parce que c'est très documenté, on sait où il est allé. Alors évidemment, la réception à la préfecture, bon, je l'ai inventée, mais on sait à quel endroit il a dormi, les endroits qu'il a visités, qu'il a passé en revue l'école d'artillerie de Metz, qui se trouve maintenant, ce qu'on appelle le Metz des officiers, c'était l'ancienne école d'artillerie sous le Premier Empire. Et donc il va passer en revue l'école d'artillerie. Et un des artilleurs de cette école va partir lui aussi, en Russie, oui, parce que en plus c'est le départ. Napoléon fait étape à Metz. Il est en route pour la campagne de Russie, cette désastreuse campagne de Russie. Et donc ce jeune artilleur part, pas exactement en même temps que Napoléon, mais il part rejoindre la grande armée. Et il est bien content de s'en aller parce que c'est le principal suspect du crime qui est commis dans le premier chapitre, qui est donc l'assassinat d'un jeune garde d'honneur. Alors la garde d'honneur, c'était des jeunes civils de Metz qui s'achetaient un uniforme et qui étaient là pour, quand l'empereur arrivait dans une ville, il devait y avoir une garde d'honneur qui l'accueille, qui l'accompagne dans les immeubles où il allait, dans les résidences où il se rendait, pour que ce soit plus pompeux, pour assurer sa sécurité. Et donc, un de ces gardes est assassiné, et notre jeune artilleur qui part pour la Russie est le principal suspect. Mmh. Alors, le voilà qui part, et sa chérie, qui n'est pas du tout sa fiancée, sa chérie qui est un peu une femme du peuple, dont il aurait honte vis-à-vis de ses parents, lui écrit qu'elle est enceinte. Mmh. Alors, c'est là qu'intervient Victoire.
Bien sûr. Alors, l'année 1812 n'est pas une année faste. Hein. Le prix du blé est passé de 20 francs en 1810 à 33 francs en 1812.
Ah, bah vous êtes très savante, moi j'avais oublié.
Mais non, bah c'est vous qui l'avez écrit.
D'accord.
C'est comme le prix du pétrole alors.
Oui, c'est un peu ça, oui. Alors, c'est énorme quand même. Les Français ont peur de la disette et peur de la conscription. Alors, j'ai vu qu'ils se mariaient pour éviter la conscription.
Oui, beaucoup. Et on se mariait même tardivement. Enfin, je veux dire, des jeunes gens épousaient des femmes âgées pour pouvoir échapper à la conscription.
Oui, c'est fou, hein.
Celle qui se présentait, quoi. Donc, une femme, un jeune homme de 18 ans pouvait épouser une femme de 40 ans parce que c'était urgent et qu'elle était tout à fait disponible et ça se faisait. Voilà.
Oui. Et du coup, il partait pas.
Mais il partait pas.
D'accord. Ah, maintenant, c'est plus tout à fait comme ça. Hein. Alors, il y a beaucoup de spéculations compte tenu du blocus anglais et donc beaucoup de contrebande.
Oui, il y a de la contrebande et on s'est aperçu que la contrebande fournissait aussi la cour impériale dans le dos de Napoléon. Oui.
Oui, c'est
toutes ces dames qui raffolaient de mousseline anglaise, alors qu'il y avait un blocus qui interdisait les marchandises anglaises de passer la Manche, eh bien, il y avait tout un réseau dans les côtes du Nord là, qui approvisionnait indirectement la cour et autres personnes intéressées.
Oui. Alors la campagne de Russie est effroyable, hein, c'est une déroute française. Hein, l'expression la Bérésina est restée dans les mémoires, hein, bien sûr. Pour nous auditeurs, vous pouvez un petit peu relater la situation à cette époque-là.
Alors, Napoléon part en Russie avec 600 000 hommes. 300 000 vont mourir pendant la retraite, c'est-à-dire au retour. Là, oui. C'est l'hiver, un hiver absolument effroyable, avec des températures à moins 40, moins 30. Et ces malheureux soldats qui sont souvent insuffisamment habillés, meurent de froid, gèlent sur place. Certains mangent leurs propres chevaux. Et puis, de toute façon, c'était difficile de circuler à cheval. Même Napoléon marchait à côté de son cheval parce que les jambes gelaient si on restait sans bouger. Hein. Mm-hmm. Donc il valait mieux bouger plutôt que de rester sur son cheval. Donc les soldats mangeaient leurs chevaux. On a même vu des soldats s'abriter la nuit dans des carcasses de chevaux morts pour être au chaud. Ça a été absolument effroyable. Ils avaient les pieds qui gelaient et c'est horrible. Cette retraite de Russie est horrible. Et dans le volume suivant, dans 1814, on voit parmi tous ceux qui arrivent à Metz, il y a aussi des anciens de Russie, des rares rescapés qui arrivent jusqu'à Metz comme ils peuvent.
Oui, oui. Alors, cette défaite de 1812 va marquer le début de la fin du Premier Empire.
Vaincu par le général hiver, comme a dit Napoléon.
Oui,
c'est l'hiver, en fait, qui a tout...
Oui, mais est-ce qu'il n'a pas péché un peu par orgueil?
Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il allait faire en Russie?
C'est ça, oui.
Ses conseillers les plus proches, comme Caulaincourt, lui disaient que c'est vraiment la dernière campagne à faire. Il ne faut pas partir en Russie. Ça va mal se terminer. On n'a aucune raison d'y aller. Mais il voulait y aller. Il voulait être le nouvel Alexandre qui conquérait des terres. Et ça a été vraiment la campagne de trop.
Oui. Alors, on peut penser ce que l'on veut de Napoléon, c'était cependant un homme au charisme incroyable. Il réussissait quand même à se faire adorer de ses hommes.
Ah oui, 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 oui. Oui, quand on voit comme les soldats criaient « Vive l'empereur » sur son passage. « Vive le petit caporal, vive le petit tondu ». Il avait des tas de petits surnoms comme ça, affectueux. Bon, pas tous, hein, il y en a qui récriminaient quand même.
Bah, bien sûr.
Mais il y avait, c'est vrai qu'il avait quand même une aura chez les anciens combattants, oui.
Alors, vous avez également publié un troisième tome de la série des Victoires Montfort, donc 1814 Typhus, publié en juin 2025, toujours chez 10-18.
Oui.
Alors, donc, vous nous en avez parlé un petit peu, donc il va y avoir une épidémie de typhus?
Alors oui, parce que donc là, on assiste... Bon, après le désastre de la campagne de Russie, se forme la sixième coalition contre Napoléon. Là, on veut l'écraser. Hein. Donc, il y a les Russes, les Suédois, les Autrichiens, les Prussiens. Tout le monde se coalise contre Napoléon, qui n'a plus d'armée. Il a encore une armée, mais ce sont des soldats de plus en plus jeunes, ceux qu'on a appelés les Marie-Louise, de plus en plus jeunes qui sont sans expérience. Et là, la grande armée va être vaincue à Leipzig. On a appelé la bataille des quatre nations, vaincue à Leipzig, et les armées refluent vers la France, repassent la frontière, poursuivies par la coalition. Et cette coalition va aller, les Russes vont aller jusque Paris. Hein. Et donc cette coalition traverse la frontière française, et les Russes assiègent Metz. Et Metz va être défendu par trois hommes de valeur, le général Durutte. Quand Napoléon a dit « Qui est-ce qui tient Metz ? Qui est-ce qui défend Metz ?» Quelqu'un lui a dit « Durutte, votre Altesse », il a dit « Oh ben, nous garderons Metz ». Donc il avait une grande foi dans Durutte, qui était un homme de décision, et on voit que c'est lui qui remonte le moral des troupes, qui refait la ville, on avait abattu les fortifications. Après la fuite du roi en 1791, on s'est dit qu'on n'avait plus besoin de murailles et plein de villes abattaient leurs murailles. Donc il y avait un gros trou dans les murailles de Metz. Le général Durutte sollicite des volontaires pour rebâtir la muraille, fait revenir des anciens de l'artillerie pour se poster derrière les canons tout autour de la muraille, parce qu'il n'y a plus de soldats. Hein. Alors c'était soit des petits jeunes qu'il fallait former, soit les vieux de la vieille qui étaient là, qui bon, finalement étaient bien contents de retourner derrière leurs canons. Et le deuxième homme, c'est le maire qui s'appelait Marchand, et lui, eh bien, c'est lui qui va gérer l'épidémie de typhus, parce que tous ces soldats qui arrivent de la grande armée, qui viennent se faire soigner dans le bel hôpital de Metz, qui avait 1800 places, 4 hôpitaux militaires en France, dont celui de Metz. Donc il y avait un afflux de soldats qui revenaient de la grande armée, blessés, malades, et les typhiques. Le typhus, c'est une maladie infectieuse qu'on attrape dans les cas de grande promiscuité, chez des gens qui sont mal nourris, qui sont fatigués. C'était le cas de tous ces soldats. Et la moitié de la ville va être atteinte de cette maladie jusqu'au préfet, le préfet Vaublanc, qui lui aussi est atteint par le typhus. Alors, Victoire va venir s'en mêler un petit peu. Et puis, c'est Marchand qui va l'aider avec l'aide d'un médecin juif qui a vraiment existé. Et c'est un petit clin d'œil parce que son père, à ce médecin juif qui s'appelait Olry Terkem, son père a soigné Louis XV, c'est vrai. Hein, Louis XV est tombé malade à Metz en 1744. Il a failli y passer. Tous les médecins de la région se sont penchés sur son cas. On l'a saigné, on l'a purgé, on a tout fait pour le sortir de là. Et finalement, c'est un médecin juif du ghetto de Metz qui l'a traité. Et j'ai imaginé que son fils, qui était médecin aussi, c'est vrai, avait soigné le préfet.
Alors, est-ce qu'il y aura un quatrième tome de la série des Victoires Montfort ?
Non, je m'arrête là pour Victoire Montfort.
D'accord. Bon, bah écoutez. Alors, Anne, vous avez reçu de nombreuses récompenses pour vos ouvrages. Vous avez pris le prix du Salon du Livre Féminin de la Ville d'Agondance en 2016. En 2019, le prix Historia du roman policier historique pour l'abbé Grégoire Sommel. Livre également sélectionné la même année pour le prix Noir historique de Blois. Vous avez eu en 2019 le prix Litteri du roman pour Rumeur 1789 et en 2024 le prix Roman et Nouvelles des conseils départementaux de Lorraine pour 1803, La nuit de la sage-femme. Lequel de ces prix vous a le plus touché ?
Historia.
Historia, bien sûr.
Oui.
Ah oui, j'imagine bien.
Ah oui, c'était une remise en grande pompe. C'était vraiment bien, quoi. Mm-hmm. Au lycée Henri IV, c'était bien.
Alors, à la fin de chaque roman, vous citez vos sources, à voir la liste des documents consultés, vous devez y passer un temps considérable avant de rédiger vos récits. Vous savez combien de temps vous mettez pour écrire un roman ?
Je mets 8 mois à peu près. Alors, en amont, quand je termine un livre, je pense déjà au suivant, donc je lis ce qui va se rapporter à la suite pour choisir l'époque, les personnages, ce que je vais raconter, donc j'ai déjà une idée. Et puis, chemin faisant, je continue à lire, parce qu'il y a toujours besoin de oui. documentation.
Oui. Alors, vous mélangez aussi les personnages historiques et les personnages fictifs. Oui. C'est difficile ?
Non, non, non.
Pas du tout ?
Non, ça permet, je trouve, les personnages de fiction permettent de mettre en valeur les personnages historiques.
Mm-hmm. C'est vrai.
Quand Victoire va voir le préfet quand il tombe malade, ça permet de faire une scène où le préfet se montre finalement très diminué, très, très dépendant de cette femme qui vient le voir, alors qu'il n'avait pas envie de la voir, il ne voulait pas se montrer en pyjama devant, en chemise, comme on disait à l'époque, devant une femme.
Oui, bien sûr. Alors, quelles découvertes historiques vous ont le plus surprise ou bouleversée lors de vos recherches ?
Ah, c'est surtout la mise en scène de la terreur, parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était une période intéressante à montrer, parce que c'est un peu l'exemple du régime totalitaire. On a vécu, là, un régime totalitaire. Et d'ailleurs, Lénine s'en est inspiré, du régime totalitaire français, hein, c'est dire. Donc, je trouve ça assez sidérant de voir qu'on a vécu une période pareille.
Alors, votre écriture est souvent décrite comme visuelle, presque cinématographique. Est-ce que vous voyez vos scènes avant de les écrire ?
Oui.
Complètement.
Oui, je les vois, oui, je les vois.
Mm. Oui, vous aimeriez que ce soit.
Oui, j'aimerais bien.
Que vos romans soient transformés en film. Oui, j'imagine bien.
Alors, il va y avoir des visites Augustin Duroc.
Bah justement,
à Metz.
J'allais vous en parler. Ah, oui, oui, oui. La ville de Metz est le pivot de vos récits, en fait. Oui. Hein, tout se passe à oui. Metz.
Alors, Metz et autre lieu, mais Metz, puisque l'enquêteur ou l'enquêtrice sont à Metz, donc ça démarre toujours là. Et puis, parfois, on nous emmène ailleurs, comme à Varennes, à Paris, à Valmy.
Oui.
Et à Nancy, le prochain.
Ah, à Nancy.
Oui, à Nancy.
Mm-hmm. Alors, j'ai vu que vous alliez organiser des visites commentées pour suivre les
traces.
Alors,
c'est pas moi.
C'est pas vous.
Ah non, je suis pas guide conférencière, hein, chacun son métier. Donc, c'est l'Office du tourisme qui m'a contactée pour me demander si j'étais d'accord.
Oui.
Et il se trouve qu'une de mes lectrices et guide conférencière. Et donc, c'est elle qui, connaissant tous mes romans, va monter plusieurs circuits. Elle me dit, il y a de quoi faire plusieurs circuits. Donc, je vais commencer par la période de l'Ancien Régime et puis progressivement...
Oui. J'ai vu sur votre page Facebook qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle, vous recréez les rues qu'avait parcourues Augustin Duras.
Je trouve ça rigolo de faire ça, oui. Je prends une photo à moi, et puis je demande à ChatGPT de mettre des choses précises, de mettre une... Je lui dis, nous sommes en telle année, les rues sont sales... mais une voiture attelée avec des barriques dessus, par exemple, des choses comme ça. Mmh. Enlève les vitrines, il n'y a pas de vitrines à cette époque-là. Enlève les vitrines, mets des portes en bois, enlève les fils électriques et les antennes de télé. il faut tout regarder, tout ce qui ne va pas. Et puis,
bien sûr.
Parfois, ça donne de drôles de choses, d'ailleurs. Je suis obligée de dire, non, ça ne va pas, là, il y a un chapeau qui ne va pas du tout avec l'époque. Là, il y a une cravate, ça ne va pas, oui.
Oui, ça doit être amusant.
Oui, c'est amusant, oui. Mmh.
Alors, comment vous vivez la rencontre avec vos lecteurs ?
Ah, j'adore ça.
C'est vrai ?
Oui. J'aime beaucoup les salons, j'aime bien voir les gens, j'aime bien.
Mmh. Et vous avez déjà d'autres projets en cours ?
Celui qui va sortir. Le suivant, oui, bien sûr, je suis dans le suivant.
Ah, vous êtes déjà dans le suivant ?
Oui, oui.
Donc, c'est Augustin Duroc qui va revenir.
Oui, c'est Augustin Duroc. Oui.
Et vous envisagez à l'avenir de créer un nouveau héros ou une nouvelle héroïne ?
Peut-être si mon éditeur en a marre, qui me dit qu'il faudrait peut-être changer, alors je changerai.
Ah, mais bon, on sent pas l'enthousiasme. Hein.
Mais non, je suis attachée à mon personnage. C'est un petit peu mon père aussi, Augustin Duroc.
Oui,
mais enfin, c'est lui qui est l'inspirateur. Quoi.
Il arrive un moment, il va être un peu vieux. Bon, il y a déjà son fils qui a pris la relève.
C'est vrai. Mais bon, en ces temps-là, on travaillait jusqu'à la mort. Hein.
Oui,
il n'y avait pas
sûr.
De retraite. Alors là, il est à la quarantaine. C'est la fleur de l'âge.
Oui, bien sûr. Alors, merci Anne Villemain-Sichorman d'être venue nous présenter ces trois romans. La dernière chance d'Éléonore, publiée chez Calmann Lévy. 1803, La nuit de la sage-femme, et 1812, Le fiancé de Russie, publié chez 10-18. Je vous rappelle également le titre de la troisième enquête de Victoire Montfort, 1814 Diffus, publié chez 10-18. Elle a sorti le 7 mai d'une nouvelle enquête d'Augustin Duroc, Les disparus de Germinal, publié chez Calmann Lévy. Merci à John Bullitt pour la lecture de sa nouvelle La petite merveille. Merci à Jean-Luc qui était à la technique aujourd'hui. Et au revoir à tous et à toutes. À bientôt sur RCN pour une nouvelle émission des Plumes.
Merci Mona.